On est ici sur le deuxième plateau d'exposition.
Oh, Stan !
Et on commence
par une grande toile qui inclut la présence de feuilles et qui sont évidemment celles d'eucalyptus. Donc on retrouve figées sur la toile et dans la peinture ce que l'on avait vu représenté photographiquement dans les plaques qui sont à l'espace inférieur. Comme le disait tout à l'heure Pascal Neveu, il y a cette référence d'Adriane à la nature, que ce soit les couleurs d'un coucher de soleil ou des mimosas. Et on voit aussi en haut de la toile, à droite, le geste un peu violent que l'on peut constater dans les vidéos, ou du moins dans l'une d'entre elles.
Alors on s'avance vers le plateau proprement dit, largement baigné de lumière et en lien lui aussi avec la terrasse. Et puis on retrouve cette caractéristique de l'atelier avec ces plaques qui sont posées sur la tranche, un petit peu comme si elles étaient en l'attente d'un traitement, l'attente d'un travail.
Oui, c'est la vision industrielle et brutaliste un peu, en tout cas minimaliste, d'une partie du travail d'Adriane, parce que c'est une partie, mais c'est une partie très importante. Que les plaques soient posées contre un mur ou placées au sol sur les lambourdes, c'est la même démarche. D'ailleurs, vous avez vu le carton de l'exposition. C'est tout simplement une plaque à Kerguenec en train d'être déménagée par ceux qui s'occupent de l'institution. Et c'est la manifestation tout simplement de la lumière, du mouvement, de la réflexion, du site, de l'architecture.
Voilà. On est rejoint par...
Donc là, on est dans la deuxième partie de l'exposition avec... La volonté, c'était aussi l'ambition de ce projet qui était, comme je l'évoquais tout à l'heure, de réunir l'ensemble des travaux à plat, dont la terminologie d'ailleurs a évolué dans le temps, hein, puisqu'au au début il appelait ça Fläschearbeiten, c'est-à-dire les travaux à plat, après travaux à plat, et aujourd'hui l'intitulé même de l'exposition renvoie à ces travaux, puisqu'il appelle tout simplement ces pièces peinture. Donc on est vraiment dans un propos pictural. Et là, pour la première fois, on a réuni des ensembles qui proviennent de collections publiques, beaucoup de FRAC, Musée d'art moderne de la ville de Paris également, et le FNAC, et des collections privées. Et c'était très 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 important pour Adriane, parce que c'était une façon de montrer que l'œuvre qu'il bâtissait depuis 30 ans avait un sens concret pour lui, qu'il n'était pas dans une production de pièces uniques successives, mais qu'au contraire, toute sa réflexion était posée, et les toutes premières séries qui sont au fond de la salle datent vraiment des années 80, et on voit quelle cohérence elles ont en termes de gamme chromatique par rapport à tout ce développement, jusqu'au grand tableau qui est là, qui est très récent, et on voit que la qualité de toute la gamme, tous les pantones, rouge, rose, etc., renvoie aussi à ce tableau. Donc c'est vraiment un processus global, un projet global, qu'il a complètement intellectualisé, qu'il maîtrise complètement, et on voit toute la cohérence de sa démarche entre des plaques d'il y a quasiment 30 ans et puis de toute dernière plaque. Et évidemment, ce qui l'intéressait à ce niveau-là, c'était le lien à l'extérieur. Évidemment, la fusion totale entre ce dispositif qui, là, pour le coup, volontairement est orienté vers la terrasse, et puis la lumière naturelle, et les effets d'effets de miroir, de brillance, qui font que d'un seul coup, ces plaques vont vivre complètement différemment. Lorsque l'on est tout de suite à l'entrée, on est plutôt sur un territoire un peu irisé, on a du mal à identifier véritablement les couleurs. Lorsqu'on est de l'autre côté et qu'on projette son regard vers l'intérieur, là au contraire, on voit vraiment tous les dégradés se révéler. Donc c'est vraiment la toute première fois où tous ces travaux sont réunis. C'était vraiment un patchwork assez complexe parce qu'il y a énormément de collections privées aussi. Il y en a à l'étranger, il y en avait au même coup à Genève, il y en avait en Autriche, il y en avait en Allemagne, il y en avait un peu partout. Mais pour lui, compte tenu de cette architecture, compte tenu de son travail aussi par rapport à la question du temps, du développement d'une œuvre, c'était un moment opportun et important dans sa carrière de pouvoir révéler au public ce que lui avait complètement conceptualisé, avait en tête, c'est-à-dire qu'il maîtrise, il connaît parfaitement à quel moment il a fait telle plaque, quelle est la plaque qui suit la précédente. Enfin, tout ça est un agencement extrêmement, extrêmement rigoureux. Et en même temps, il se permet ensuite, en toute liberté, de les agencer complètement différemment. Puis il y a cette série aussi qui est très étonnante, où on voit justement cette série noire, où on voit justement ce magma de matière qui là aussi prend la lumière, mais qui nous amène qui nous rappelle qu'on est face à un travail pictural et pas face à un travail de Carl André ou de Sol LeWitt ou d'un artiste minimal, pas du tout. Et il revendique complètement, vous le verrez aussi, parce que ça peut surprendre. Bon, les effets de brillance, oui, mais il y a des plaques qui sont plus ou moins abîmées. Donc oui. Vous voyez par endroits, il y a des petits chocs, les angles ne sont pas forcément en bon état, les pièces ne sont pas forcément bien jointoyées. Donc ça fait complètement partie du processus. Il y a des plaques, on a l'impression qu'il y a de la poussière dessus.
Oui.
En fait, il réintervient dessus en ponçant. Et il y en a d'autres, il y en a une qui est complètement cassée à l'autre angle, ou là, l'angle qui a été coupé, tout simplement parce qu'à une époque, il introduisait au milieu de cette installation des moniteurs avec des projections de monochrome de couleur, avec ces dégradés successifs. Donc en fait, les trous qui sont aménagés là sont simplement les espaces qui permettaient de cacher, de faire passer les fils électriques en fait. On va aller tout au bout parce qu'il y a aussi ces deux petits tableaux en exergue qui montrent aussi toute la gestualité. C'était des peintures relativement récentes sur aluminium et qui étaient une forme, pour Adrienne, une façon de concentrer le geste, la matière sur un petit format avec les mêmes techniques de peinture et les mêmes références de peinture industrielle et qui font écho à la fois aux gammes chromatiques qui sont sur les travaux à plat et aux grands tableaux. Donc il a multiplié les formats, les supports pour que ça ne soit pas uniquement l'artiste des grands formats, mais que ça soit aussi une façon de montrer que voilà, le geste de la peinture, il peut se limiter à un espace extrêmement réduit.
Peut-être deux mots de ta part sur deux notions assez importantes dans la peinture d'Adrien Chi. C'est un, le rapport à l'infini, et deux, le rapport à la destruction.
Oui, le rapport à l'infini, il est constant chez lui puisqu'il est vraiment dans ce travail de work in progress, de processus, et donc il est dans une œuvre ouverte qui est vraiment qui se remet en question à chaque fois. Et puis la destruction, elle est omniprésente puisque avec cette dimension aléatoire de travail dans l'atelier, il est dans un choix permanent et dans des questions permanentes sur ce qu'il va conserver, pas conserver. Et on verra à l'étage du centre de documentation que même certaines éditions papier, gravures et autres sont des éléments déchirés de certaines peintures ou de certains travaux. Donc il y a aussi cette volonté d'être vraiment à chaque fois dans la sensation qu'un petit élément de rebut à un moment donné, hop, en fonction de la façon dont on le regarde, on l'organise, va prendre une coloration et une importance différente.
Alors à la destruction, effectivement, mais alors certaines sont achevées, comme par exemple une plaque dont l'angle supérieur est proprement scié, mais je connais une plaque ancienne, peut-être une des toutes premières, qui était faite sur un support de bois aggloméré, et la peinture était appliquée non pas de façon industrielle comme ici, mais à la main. De façon traditionnelle par l'artiste, et cette plaque a été brisée en deux, délibérément. Et c'est cette plaque qui est dans notre collection, parce qu'elle constitue une référence historique dans le travail de l'artiste.
Alors on est ici face à une œuvre qui est très largement monochromatique, enfin, qui donne cette apparence d'être en aplat de couleurs, et en réalité, ça ne l'est pas du tout. Sur cette ambiguïté entre le minimalisme, la monochromie, et puis le geste pictural dans l'œuvre d'Adrian Schiss.
Alors, comme on le disait tout à l'heure, Adrian récuse d'être qualifié de peintre monochrome. Ses plaques, déjà, sont réversibles. La couleur qui figure ou qui est présente à l'envers est fondamentalement différente de celle qui est présentée à l'endroit, c'est-à-dire là où nous sommes. Et le choix qui a été fait par Adrian dans la mise en œuvre de l'exposition, de la présentation, c'est déjà de ne pas faire apparaître les lambourdes, de les mettre jointives, et surtout, c'est ce qui apparaît, il y a une progression dans la couleur, un dégradé. Alors, c'est un choix qui tient peut-être au lieu, qui tient peut-être à la lumière du sud. C'est le choix de l'artiste, tout simplement.
Alors, à l'instar des toiles de Bacon qui sont recouvertes d'une vitre de manière à ce que le spectateur puisse y voir son reflet, de même, dans cette œuvre, on y voit notre reflet. On y voit le reflet de l'architecture, le reflet de l'extérieur. Sur cette idée de la réflexion, de la réflexivité de l'œuvre.
Il n'y a rien de plus beau que de voir la réflexion dans les œuvres du spectateur, d'un groupe de spectateurs, de voir entremêler des éléments d'architecture qui sont propres à chaque lieu. Je me rappelle de Serralves, c'était somptueux parce que l'architecture d'Alvaro Siza est au moins aussi radicale que celle de Ken Okuma. Et aujourd'hui, on voit à présent les éléments techniques qui se reflètent de façon différente selon que la plaque a telle ou telle couleur, ou telle texture dans sa couleur.
Ce qui me frappe aussi dans la façon dont cette œuvre est rendue visible dans cet espace, c'est la continuité entre le bâtiment lui-même et l'œuvre de l'artiste qui y est présentée, le rapport entre la matière et la linéature du sol de béton et celle de l'œuvre d'Adrian Schiss. C'est un dialogue entre la peinture et l'architecture.
C'est toujours un dialogue entre la peinture, l'architecture ou tout simplement la vie, parce que ces plaques, je les ai vues aussi dans des bâtiments ou dans un bâtiment en Suisse, une villa d'un industriel avec un mobilier très classique 18e, et le contraste était magnifique. Ici on a en quelque sorte une fusion dans la radicalité qui est celle de l'architecture et celle de l'œuvre, et l'œuvre valorise réciproquement l'une et l'autre, se valorise. Et en Suisse, c'était la confrontation entre, j'allais dire, le classicisme, voire presque le baroque, et ça aussi, cette confrontation était de toute beauté. C'est en fait toujours un phénomène tout simplement de réflexion, et c'est la fonctionnalité de ces plaques, c'est la vision qu'a Adrian ou que donne Adrian de son travail, et c'est la vision qu'il fournit aux visiteurs.
Pour conclure cette visite que nous avons faite ensemble, cette exposition d'Adrian Schiss, peut-être quelques mots sur la matière qui la compose, des œuvres qui sont pour partie issues de la collection du FRAC, pour partie aussi apportées par des collectionneurs, dont votre propre collection, sur cette manière de réunir non seulement le parcours d'une œuvre, mais aussi le parcours d'une relation, finalement, avec ceux qui la collectionnent, avec ceux qui l'apprécient, avec ceux qui l'aiment.
C'est un choix qu'un collectionneur fait nécessairement, un choix. Un collectionneur a ce que l'on appelle une ligne. Une galerie a une ligne. En faisant un choix, on partage, ou du moins on appréhende le travail d'un artiste. Et ce choix implique qu'on soit toujours attentif à l'évolution de son travail. C'est l'expression d'une personnalité. Soi-même, on évolue. L'artiste évolue aussi. Et confronter cette évolution de l'un et de l'autre est toujours intéressante. Et le mérite d'une exposition comme celle qu'a organisée le FRAC, c'est précisément de parcourir ses choix, de montrer ses choix, de témoigner de leur réalité, de l'apprécier dans le temps, de la mettre en rapport avec ce qui s'est passé depuis 10 ans, depuis 20 ans, parce que c'est l'âge de certaines plaques. Montrer l'étoile qu'Adrian crée aujourd'hui et démontrer que ça fait partie d'un tout, et on voit qu'il y a une cohérence parfaite dans tout ce travail.
Merci Yves Canus. Dans cet audio guide, vous avez pu entendre Yves Canus, collectionneur, ainsi que Pascal Neveu, directeur du Fonds Régional d'Art Contemporain PACA. Cet audio guide était coproduit par le FRAC PACA et Radio Grenouille, réalisé par Xavier Thomas.